virus n'a pas eu la peau de la culture estivale en France, pas du tout. Partout dans le pays, on peut respirer à plein poumon l'air culturel, expo, festival, il suffit de vérifier les jauges et de porter un masque. Ce matin, Culture Média s'offre un petit tour de France culturelle. Quatre propositions pour votre été qui bat son plein. Nous serons à Marseille, à Pougnérisson, dans les Deux-Sèvres, aux Eaux-de-Thoiry, mais d'abord direction Bordeaux, son ancienne base sous-marine, les bassins de lumière, ou comment voir notamment l'étoile de Gustav Klimt projetée sur les murs de béton, ou réflexion sur l'eau, Klimt d'or et de lumière. Bonjour Augustin de Cointet.
Bonjour Pascal.
Vous êtes le directeur des bassins. Cette exposition, il faut le dire d'abord, j'imagine, est rendue possible par une performance technologique.
Oui, tout à fait, puisque nous sommes dans un gigantesque bunker qui fait au total 4 hectares. On utilise un gros tiers et on est dans du béton. Il y a de l'eau puisque c'est des grands bassins d'eau dans lesquels rentraient les sous-marins. Et puis, il y a des grandes voûtes de béton qui ont été construites par-dessus. Et à l'intérieur de cet endroit gigantesque et un peu sinistre au départ, il y a toute une installation technologique qui a été faite pour pouvoir projeter de l'image partout. C'est-à-dire que quand vous entrez, vous avez vraiment de l'image partout. C'est-à-dire tout autour de vous, sur tous les murs sans discontinuité, sur les sols au niveau des quais. Voilà. Et donc, quand vous vous promenez là-dedans, il faut imaginer des dimensions gigantesques, puisque il y a 4 bassins qui font chacun 100 mètres de long sur 20 mètres de large et 15 mètres de plafond. Et vous avez de l'image absolument partout. Et puis, à vos pieds, comme vous êtes sur des passerelles, vous avez l'eau qui est dessous et qui reflète toute l'image qui est autour de vous.
Alors, c'est peut-être un peu compliqué à décrire à la radio, mais là, je crois qu'on a un bon aperçu. Le défi est visuel, mais il est aussi sonore.
Bien sûr, puisque on est dans un endroit de béton avec de l'eau, donc il fallait faire une installation sonore extrêmement précise pour avoir une qualité d'écoute très très belle et très précise. Et parce qu'il faut bien imaginer que les expositions qu'on présente à l'intérieur mélangent la musique et les images, et en fait il y a autant le son qui est au service de l'image que l'image qui est au service du son. C'est vraiment quelque chose de très complet, et c'est pas juste des images qui sont mises en mouvement avec un peu de musique, mais c'est vraiment un travail de création pure dans lequel on associe des images, celles de Gustav Klimt ou de Paul Klee par exemple, qui sont retravaillées et au rythme d'une musique particulière.
Mmh. Alors on a la musique, et en même temps, bon, c'est Beethoven, hein, symphonie numéro 9, deuxième mouvement, donc on va l'écouter, et puis vous allez nous faire une petite projection d'imagination, hein, décrire un petit peu la déambulation. Ça marche, Augustin Cointet ?
Avec grand plaisir.
Allez, on y va. À vous de jouer.
Donc là, nous sommes au milieu des bassins. Vous êtes au-dessus de l'eau sur une passerelle. Et vous avez tout autour de vous une grande rupture visuelle qui se crée puisque vous entrez dans la sécession viennoise. Ce qu'a voulu le réalisateur, Gianfranco Iannuzzi, avec son équipe Renato Gatto et Maximiliano Sicardi, c'est nous montrer avec cette musique que la sécession viennoise apporte quelque chose, un nouveau courant esthétique, quelque chose de nouveau. Et en fait, on va profiter du gigantisme des murs des bassins de lumière pour projeter des frises qu'on voit nulle part ailleurs. Par exemple, la fameuse frise Beethoven, d'où le choix musical, où vous voyez tout autour de vous les grandes spirales dorées de Klimt, puis cette allégorie du mal qui est une espèce d'énorme gorille qui arrive derrière vous sur des proportions gigantesques de quasiment plus de 10 mètres de haut, puis le chevalier, le conquistador qui représente le bien, qui va lutter contre le mal, et tous les chœurs qui sont toutes ces femmes de Klimt un peu rousses qui chantent les unes à côté des autres, qui vont s'animer tout autour de vous. On n'est pas du tout dans le cadre d'un diaporama avec des images qui sont posées les unes à côté des autres, mais vraiment le tableaux de Klimt sont sortis de leur cadre et déployés dans les 13 000 mètres carrés d'écran, et tout autour de vous, vous avez ce combat entre le bien et le mal au rythme des accords de Beethoven et au rythme des couleurs dorées et magnifiques de Klimt, et vous évoluez là-dedans. Il faut savoir que c'est un parcours dans lequel vous n'êtes pas assis, vous déambulez, vous marchez, vous avez 4000 mètres carrés, vous marchez, donc voilà, on est dans plein rêve.
Impeccable, Augustin de Cointet, franchement, alors là, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à faire pour moi.
Ah si, il faut venir.
Ah si, il faut venir, bien sûr, et même Beethoven vous remercie. Alors, on a parlé de Gustav Klimt, ça c'est le programme long, mais il y a un programme court avec l'artiste allemand Paul Klee. Que peut-on dire de Paul Klee? Comment donner envie aux gens de venir voir ses œuvres?
Alors Paul Klee, il a un regard un petit peu différent. Il a une peinture qui est très très musicale. C'est quelqu'un qu'on connaît finalement peu de noms, mais très bien dans les dessins, parce que c'est des dessins qui sont connus de beaucoup de nos enfants, parce que Klee avait une approche très spontanée de la peinture, et avec des grands personnages d'enfants, des têtes dans tous les sens, mm-hmm. avec des airs un peu tout à fait particuliers, et puis une peinture parfois très géométrique avec des carrés, des choses qui s'approchent les unes à côté des autres. Et Klee a une peinture éminemment musical. Donc en fait, tout le travail qu'on va faire ici, c'est de le mettre en scène, comme si on était dans un opéra, et on a les peintures de clés qui viennent à droite, à gauche de vous, rythmées, enfin au rythme de... Alors pour le coup, c'est Mozart avec la flûte enchantée, mm-hmm. et vous avez toutes ces toiles de clés, tous ces personnages qui se répondent, vous avez les visages peints par clés, c'est Papageno et Papagena qui se répondent d'un mur à l'autre, etc. Donc ça fait quelque chose de, là aussi, assez extraordinaire.
Comment se passe la fréquentation pour l'instant ?
Écoutez, on a beaucoup de monde qui vient. Alors tout ça est fait avec beaucoup de prudence pour qu'on respecte chacun les règles sanitaires.
Donc,
on demande aux gens de venir avec des masques. On peut prendre la température en arrivant. On a du gel qui est distribué dès qu'on a une porte à pousser ou un endroit particulier. Et puis surtout, on a veillé à avoir une jauge pour laisser 6 mètres carrés par visiteur présent. Donc voilà, on n'a pas surchargé la base sous-marine, bien au contraire. Bien sûr, il y a des points de vue dans lesquels les gens s'approchent un peu plus parce qu'ils ont une force particulière. Et là, on demande aux gens de faire attention à respecter la distanciation sociale, mais voilà, la visite se passe très bien et c'est fait avec beaucoup de mesures pour que l'émotion prenne le pas et que ce soit vraiment un moment de rêve, un moment où on décroche un petit peu. Et la visite donc se fait par créneau horaire. Vous prenez votre billet par exemple sur internet.
Voilà, c'est le mieux de réserver. Hein.
Exactement. Ouais. Et puis après, vous restez autant de temps que vous voulez.
Ça coûte combien l'entrée, rapide?
L'entrée est à 13,50 le plein tarif. Et puis après, vous avez tarif dégressif pour les familles, pour les jeunes, d'accord, pour les plus âgés, etc.
Merci beaucoup. Si vous êtes du côté de Bordeaux, donc n'hésitez pas. Klimt au bassin de lumière jusqu'au 3 janvier à la base sous-marine de Bordeaux. Merci à vous, Augustin de Cointet. Petit tour de France culturelle. Quelques idées pour votre été. Suggestions supplémentaires. Connaissez-vous Pougne Hérisson? Moi non plus. Village des Deux-Sèvres, 370 habitants, sauf quand a lieu, comme cet été, le festival Nombril du Monde, qui fête cette année ses 30 ans. Ce sera les 14 et 15 août. Nombril du Monde se tient tous les deux ans, uniquement les années paires. Bonjour Yannick Jelin.
Bonjour.
C'est vous qui dirigez Nombril du Monde, vous l'avez fondé ce festival. Un slogan, il faut le croire pour le voir. Vous jouez le décalage, mais comment ?
Alors écoutez, déjà en disant que Pougne-Hérisson, cette petite bourgade, est en fait un des nombrils du monde, c'est déjà jouer le décalage. C'est-à-dire que toutes les histoires du monde sont parties de là au moment de ce qu'on appelle le Big Bang mythologique, c'est-à-dire affirmer que en fait, sans nous, vous n'existeriez même pas, vous rendez compte ?
Ah oui, non, ça va chercher loin. Que va-t-il se passer pendant deux jours à Pougne-Hérisson, Yannick Jelin ?
Bah déjà, il y a une ambiance particulière quand on arrive dans ce village. Je crois que c'est assez bien de passer directement de Klimt, Klee à Pougne-Hérisson, c'est-à-dire au poète des bords de chemin. Nous, on est là pour célébrer finalement une créativité ordinaire, c'est-à-dire des gens qui sont dans des univers aujourd'hui vachement délaissé, c'est-à-dire que la ruralité s'est effondrée il y a quelques années avec la fin des paysans, et aujourd'hui là, qu'est-ce qu'on fait de ces espaces-là ? Et il y a une possibilité de fabriquer des choses. On a des espaces extraordinaires, donc là il y aura des spectacles, mais il y a aussi une manière d'accueillir les gens, c'est-à-dire en les laissant s'installer sur le territoire, justement là dans une période aussi difficile au niveau sanitaire, les faire s'installer sur un endroit très beau, puisqu'on est dans un endroit au pied d'un château où il y a une espèce de il y a des grands espaces encore avec un peu de verdure. Il y a des spectacles, le lancer de cri de bœuf par exemple, c'est un sport.
Ouais.
Mmh. C'est un sport intéressant. On avait fait ici, sur le même lieu, le match de foot de Pougne-Hérisson contre le reste du monde, qui était sur un terrain en pente, et avec la ligne médiane qui était juste devant le but du reste du monde. On avait fait 2-2. On a fait des jeux comme ça pendant longtemps, des jeux qu'on espère innovants. Mmh. Voilà.
Comment avez-vous atterri à Pougne ?
Hasard, un soir difficile, un soir de grande chaleur, on m'a emmené dans cet endroit-là où il y avait vraiment des pierres partout, ça tombait, des châteaux en ruine, des auberges effondrées. Et c'était presque comme un lieu d'entraînement des géants. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait eu ici des types qui étaient venus jouer aux boules. Il y a des chaos granitiques partout. On est dans le massif armoricain. La fin du massif armoricain, en fait, même si on est dans la Gâtine-Poitevine. Donc, il y a des gros rochers de granit dans tous les sens. C'est assez surréaliste comme endroit. Et c'est un endroit de légende. Il y a toujours eu des légendes autour de... Il y a encore peu de temps, on venait célébrer Saint Pou, qui est un saint qui protège de la peur. Et Dieu sait si on a besoin de de le célébrer ces temps-ci.
Effectivement, je ne savais pas que Saint-Pou protégeait de la peur. Du coup, vous m'amenez au Covid. Il a fallu que le virus s'installe une année paire. C'est quand même pas de chance. Mais c'est vrai, c'est jouable la Pougne sous Covid.
Ben oui, vous vous rendez bien compte que là aussi, l'espace fait. On n'est pas dans un lieu clos. On a une jauge 500 personnes, c'est quand même excessivement peu. Il y a peut-être que dans les moments de restauration, de choses comme ça, mais je pense que les gens qui vont venir chez nous d'abord seront des gens précautionneux. C'est des gens qui sont habitués au lieu, souvent, puisque même si ça vient d'un peu partout, là, ils sont assez limités. Et non, c'est possible, bien sûr, c'est possible.
Parce que j'ai une idée assez arrosée de nombril du monde, mais peut-être que je me trompe, c'est-à-dire que les masques, s'ils sont portés, même si vous n'avez pas l'obligation, puisque c'est en extérieur, ils vont assez vite tomber, non ?
Comme dans les espaces de restauration, vous en avez vu beaucoup dans les restaurants, manger avec le masque ?
Non, ça c'est pas possible, effectivement.
Non, puis on a des jeux qui sont difficilement concevables aussi avec le masque. Mais bien sûr qu'on va faire le nécessaire. Bien sûr que les gens qui viennent sont tellement contents déjà que ça existe, parce qu'on a failli tout annuler, bien sûr. On avait tout annulé au mois de mars. Et puis on s'est dit non, il faut résister à ça. Il faut se dire, il se passe quelque chose, même si c'est peu, même si c'est, c'est pas festif pareil, bien sûr. Mais qu'est-ce qui va être festif cet été, totalement ?
On essaye, hein, on va tenter la fête, mais d'une façon différente, effectivement. Merci beaucoup. C'est donc le week-end du 15 août à Pougny-Hérisson dans les...
Et c'est tout le reste de l'été, puisque le jardin sonore, qui est assez unique, existe pendant tout l'été, et c'est un endroit, justement, qui ne croule pas, donc, c'est-à-dire qu'on peut y venir tranquillement et y passer un temps absolument délicieux en n'étant pas submergé par une foule.
Voilà, allez donc à Pougny-Hérisson, si vous êtes dans le coin, c'est dans les Deux-Sèvres, nombril du monde et au-delà. Merci beaucoup Yannick Jolin. On va partir à Marseille parce que Marseille finit toujours par manquer à un moment donné. A tout de suite. Il n'y a pas que l'OM à Marseille, il y a aussi le MUCEM, magnifique musée où vous pouvez aussi ne pas entrer. Le point de vue depuis les passerelles extérieures est magnifique. Mais là, on entre actuellement au MUCEM tout l'été et même jusqu'à début janvier, l'exposition L'Orient Sonore, musique oubliée, musique vivante. Vous pouvez télécharger l'application et vous déambuler en musique. Bonjour Pierre Giner.
Bonjour Pascal.
Vous êtes le directeur artistique de cette exposition, dont le commissaire est le Libanais Kamal Kassar. C'est d'abord un patrimoine que vous mettez en valeur à travers cette exposition ?
Oui, c'est le patrimoine d'une musique à la fois précieuse, riche et ancienne, en fait, qui est au travers de ses enregistrements depuis 1903, en fait.
Parce que cette musique traditionnelle arabe est menacée ?
Ben, déjà, elle est oubliée, enfin, ou méconnue. C'est des choses qu'on n'écoute pas forcément, des 78 tours. Enfin, on en montre 60 parmi les 10 000 que collectionne cette fondation, la Fondation Amar à Beyrouth. Et en même temps, effectivement, elle est menacée aujourd'hui par les conflits, mais aussi par le monde contemporain, dans la façon dont les traditions orales disparaissent aujourd'hui. Traditions orales très précieuses.
Vous parliez d'une date, hein, c'est la première date d'enregistrement, c'est en 1903. On va écouter et vous allez nous en parler. Pierre Giner, qu'écoute-t-on et quel est le support ? Comment ça a pu être conservé, 1903 ?
Ben, c'est un 78 tours, une chanson, je crois, qui s'appelle « Être câlin, c'est à la mode ». Pour ça, c'est toujours très actuel. Et c'est une chanson d'Ibrahim Al-Kabani, et enregistrée par Gramophone Berliner en 1903. En fait, cette exposition, effectivement, elle est possible que parce que on s'est mis à enregistrer la musique. Voilà. Et la bizarrerie, c'est qu'en enregistrant la musique, à la fois on l'a diffusée, mais on l'a fait aussi disparaître dans l'accumulation et la succession des morceaux et des modes. Alors là, c'est à la mode d'être câlin, mais en fait, quand la mode passe, la musique disparaît. Et Kamal Kassar et ses amis de la Fondation, finalement, collecte et redécouvre toutes ces musiques disparues, parce qu'on peut plus les lire. Ou alors du coup ils collectionnent des gramophones, des 78 tours, mais aussi des cylindres, enfin c'est-à-dire toutes les formes d'enregistrement de la musique. Et cette exposition nous permet de les réécouter, comme l'application qu'on a sortie qui s'appelle orientsonore.fr.
Tout ce matériel.
C'est une sorte de grand salon de musique. Ouais.
Oui, tout ce matériel, 78 tours, cylindres, etc. Où sont-ils habituellement? Ils sont à Beyrouth?
Oui, ils sont à Beyrouth dans la fondation, mais qui est un peu à l'extérieur de Beyrouth, qui a été préservée. Mais,
oh. Oui, c'était ma question.
Fadi a été blessé. Oui. Et en fait, effectivement, la situation chaotique qui a lieu en ce moment à Beyrouth, à la fois politique et avec la catastrophe qui a eu lieu il y a deux jours, fait que finalement est une sorte de, comment dire, d'événement absolument catastrophique qui vient d'avoir eu lieu, mais cette musique est prise dans cette situation chaotique depuis toujours.
Mmh. Vous évoquiez aussi des traditions musicales orales qui sont menacées. De quoi s'agit-il ?
En fait, tout simplement de pratiques musicales, collectives ou privées ou publiques qui elles-mêmes sont prises dans les conflits ou dans la société moderne, tout simplement, et qui s'estompent ou disparaissent du fait des modes, mais aussi du fait des conflits interreligieux qui les condamnent à s'estomper, ou tout simplement du fait des pratiques elles-mêmes et de la disparition de leurs interprètes. Mmh. Voilà. Et c'est ce que, parce que je parlais de Fadi Yannick Tur, qui est un cinéaste et un documentariste, et qui, parce que cette fondation d'un côté conserve des disques ou des musiques enregistrées, mais on enregistre aujourd'hui. Et Fadi, qui est un cinéaste et documentariste, va au plus proche des musiciens et dans des contrées à circuler, que ce soit en Égypte, en Irak, pour enregistrer des musiciens ou des événements musicaux qui soient publics. Des soufis qui jouent des transes absolument magnifiques, on dirait une sorte de rap contemporain ou de techno très intense, ou des poètes en Algérie qui développent une poésie épique et dont il n'y a plus que 4 représentants.
Effectivement. L'Orient sonore, j'ai l'impression que cette exposition trouve un écho particulier en ce moment, et y compris à Marseille. Cette expo colle à la ville de Marseille, vous diriez ?
Ben oui, parce que Marseille, c'est, c'est le début de l'Orient en France, en fait. Et c'est vrai que les gens qui la visitent disent, vous connaissez la musique de mon arrière-grand-père, comment ça se fait? Et puis, tout simplement, ou d'autres disent, mais c'est l'Aïd. Parce que c'est vrai que c'est une fête, en fait, cette exposition. Elle est à la fois très émotionnante, enfin, très intense, et puis en même temps, on vient s'installer au milieu des installations, réalisé par Fadi, et sur des tapis, écouté au plus proche de la musique. À un moment, on est dans un salon, à un autre moment, on est dans une sorte de fête publique devant des grandes scènes. En fait, il y a une sorte de joie de la musique. Et puis, c'est un grand salon de musique au milieu des disques, au milieu des événements sonores. Il y a aussi ce collectionneur, Kamel Kassar, qui s'entretient avec Philippe Azoury, le journaliste, de leur propre passion de la musique, et qui nous font partager.
On n'allait quand même pas se quitter sans écouter Oum Kalsoum. Merci beaucoup, Pierre Giner. L'Orient sonore actuellement au Mucem de Marseille, avec masque obligatoire, j'imagine.
Masque obligatoire, et puis on est très bien accueillis, franchement, par le Mucem. Il y a de la place, dans l'exposition et dans le musée. Il y a d'autres expositions, et vous y êtes bienvenus.
Merci beaucoup d'avoir été en ligne. Dernière étape à suivre de notre mini tour de France, et je vous l'annonce sur Oum Kalsoum, donc c'est quand même la classe. Une expérience à Thoiry, à tout de suite.
Europe 1, Pascal Clark.
Et l'on termine ce mini tour de France d'idées pour vos traités à Thoiry. Thoiry dans le département des Yvelines, près de Paris. Thoiry, son zoo évidemment. Quoi de neuf? Eh bien un dîner safari tous les vendredis d'été jusqu'au 11 septembre, comme ce soir par exemple. Bonjour Christelle Bonjour Christelle Bercheny.
Bonjour.
Vous dirigez le zoo de Thoiry, et autant le dire tout net, les mesures sanitaires liées au coronavirus ont contraint le zoo à pas mal d'annulations, tout n'est plus possible.
Alors tout à fait, il y a eu des choses, on avait beaucoup d'événements qui étaient prévus cet été, hein, dont un concert pour la conservation avec Yannick Noah et Barry Moore au mois de juin, qui a dû s'annuler, une wild race qu'on fait tous les ans au mois de septembre et qu'on a repoussé aussi l'année prochaine, où les gens couraient au milieu des animaux. Mais comme tout ce qui est Covid nous a engagé à devoir adapter, à s'adapter, etc., on a aussi tout ce qui est fermé, tout ce qui est restauration à l'intérieur, donc on fait que de la vente à emporter pour cet été. Et donc effectivement, on s'est dit, il fallait qu'on réinvente un peu les choses et qu'on se dise comment on fait rêver nos clients cet été et comment on les fait voyager puisqu'ils pourront moins voyager que d'habitude. Et on a eu l'idée de ce dîner safari.
Alors ça consiste en quoi ?
Alors le dîner safari, tout simplement, c'est faire voyager les gens au milieu de la réserve africaine et de partager un dîner sud-africain avec un maître barbecue sud-africain, Monsieur Kobu, qui fait une vraie cuisine sud-africaine au milieu des zèbres, des éléphants, des autruches et de toutes les gazelles.
Là, vous allez faire hurler les véganes. Hein.
Oui, très bien. Mais c'est au milieu des herbivores. Et il y a aussi évidemment, alors il n'y a pas forcément que pour les végans, il y a aussi bien pour les carnivores et les végétariens, puisque nous avons du saumon qui est cuit plus de 4 heures au barbecue. Vous avez aussi des paniers de légumes. Donc il y en a pour tous les goûts. Et puis évidemment des effilochés de bœuf et genre de choses.
Ouais, je crois que les végans ils vont même pas jusqu'au saumon. Hein. Mais bon, quel genre d'animaux? Parce que vous dites en safari, bon safari pacifique, hein, on est bien d'accord. Quel genre?
Bien sûr.
Ouais. Quel genre d'animaux? Donc on dîne en extérieur évidemment et on voit passer quoi? Qui?
Alors, on vous emmène directement avec le camion brousse, hein, qui est un vrai camion qu'on peut trouver au milieu de la plaine africaine. On vous emmène au milieu de la réserve africaine et là, vous allez croiser aussi bien les gazelles que tout ce qui est gnou, tout ce qui est watussi, tout ce qui est éléphant, zèbre, autruche, qui seront autour de vous pendant toute la soirée.
Mmh. Mais ces animaux-là, les gnous, prenons, ils sont pas ennuyés par l'odeur de la cuisine?
Alors non, hein, on est sur une plaine qui fait 75 hectares. Donc il y a de l'air, hein, c'est un petit peu d'espace, et donc tout est mis en place pour être vraiment nous la partie humaine, j'ai envie de dire, est réservée sous une partie boisée qui permet aussi d'assurer la sécurité des clients. Hein, puis on a un cordon de sécurité et il y a plusieurs soigneurs qui sont avec nous qui assurent la sécurité de tout le monde. Et les animaux restent quand même dans une grande plaine et donc sont absolument pas gênés par nous et au contraire ils sont très curieux. Et on a de temps en temps la visite des autruches. Donc il y a des consignes de sécurité très claires où il ne faut pas courir, il ne faut pas applaudir pour de façon à ce que tout le monde soit en sécurité et que la soirée se passe bien. C'est aussi pour ça que les enfants de moins de 12 ans ne sont pas pour le moment admis.
Mmh. Quel est le tarif de ces dîners safari?
C'est 115 euros pour la soirée complète avec un accès au parc à partir de 15h. Donc vous pouvez vous balader à partir de 15h au parc et les premiers départs sont à partir de 19h au camion brousse et le retour est en général entre 22h30 et 23h.
Vous annoncez peut-être pour la fin août la visite à vos deux gorilles Yeba et Ayo qui va devenir possible. Comment vont-ils d'abord ?
Ils vont très bien, ils s'acclimatent depuis le 17 juin à leur nouvel environnement, à leur nouveau soigneur. On a vraiment pris le temps de façon à ce qu'ils soient bien dans leurs espaces, qu'ils soient bien habitués à leur soigneur aussi et qu'il n'y ait pas de stress au moment de l'ouverture aux clients. Là aujourd'hui on en a deux, il y en a deux autres qui vont arriver aussi à fin août, qui sont plus habitués, qui viennent de grands zoos comme Peridaisa, à voir du public et qui sont plus vieux, il y en a qui a 18 ans. Donc du coup, voilà, fin août normalement ils seront visibles dans leur bâtiment et dans leur espace naturel aussi, puisqu'on leur a créé deux belles îles que l'on est en train de terminer.
Et ils viennent d'où, Yeba et Ayo?
Alors Yeba et Ayo, ils viennent de Burger, de tout ce qui est en Allemagne Burger, et en Hollande.
Ah oui, d'accord.
Zoo. Un zoo.
Oui, d'accord.
Non,
parce que Burger,
non pas l'avion. Non, non.
Ok, bah en attendant, les gorilles dîner safari.
Et Gaïa Zoo.
Ouais, dîner safari, safari pacifique, chaque vendredi, donc ce soir, au zoo de Thoiry. Merci Christelle Bercheny d'avoir été en ligne avec nous.
Merci à vous.
Et bon Thoiry, bel été.